Témoignage de Randolph Carter. Je vous répète, messieurs, que votre enquête est sans objet. Retenez-moi ici pour toujours si vous le voulez. Enfermez-moi ou exécutez-moi s'il vous faut une victime pour vous concilier l'illusion que vous appelez justice. Mais je ne peux pas en dire plus que ce que j'ai déjà dit. Tout ce dont je me souviens, je l'ai dit en toute franchise. Rien n'a été déformé ou caché, et si quelque chose reste vague, c'est seulement à cause du nuage noir qui m'a obscurci l'esprit. Ce nuage et la nature nébuleuse des horreurs qui l'ont amené sur moi. Je le dis à nouveau, je ne sais pas ce qu'il est advenu de Harley Warren, bien que je pense, j'espère plutôt, qu'il repose dans un oubli paisible, s'il existe encore quelque part une chose aussi bénie. Il est vrai que j'ai été pendant 5 ans son ami le plus proche et que j'ai, en partie, partager ces terribles recherches sur l'inconnu. Je ne nierai pas, même si ma mémoire est incertaine et manque de précision, que votre témoin nous ait peut-être vus ensemble, comme il le dit, sur Gainesville Pike, marchant vers le marais du Grand Cyprès à 11h30 par cette nuit affreuse, que nous portions des lanternes électriques, des bêches et une curieuse bobine de fil avec des instruments attachés. Je vais même le confirmer. Car toutes ces choses ont joué un rôle dans l'unique et hideuse scène qui reste gravée dans ma mémoire ébranlée. Mais de ce qui a suivi et de la raison pour laquelle j'ai été retrouvée seule et abasourdie au bord du marais le lendemain matin, je dois insister sur le fait que je n'en sais rien de plus, si ce n'est ce que je vous ai répété maintes et maintes fois. Vous me dites qu'il n'y a rien dans le marais ou dans ses alentours qui puisse constituer le cadre de ces événements effroyables. Je réponds que je ne sais rien au-delà de ce que j'ai vu. C'est peut-être une hallucination ou un cauchemar. Hallucination ou cauchemar. J'espère ardemment que ce n'était que cela. Mais c'est tout ce que mon esprit a retenu de ce qui s'est passé pendant ces heures traumatisantes qui ont suivi le moment où nous avons disparu à la vue des hommes. Alors, pourquoi Harley Warren n'est pas revenu, lui ou son ombre, ou plutôt quelque chose sans nom que je ne peux pas décrire, seul peut dire. Comme je l'ai déjà dit, les études étranges de Harley Warren m'étaient bien connues. Et dans une certaine mesure, partagée par moi. De sa vaste collection d'étranges livres rares sur des sujets interdits, j'ai lu tous ceux qui sont écrits dans les langues que je maîtrise. Mais ils sont peu nombreux, en comparaison de ceux en langue que je ne comprends pas. La plupart, je crois, sont en arabe. Et le livre d'inspiration démoniaque, qui a précipité sa fin, le livre qu'il a emporté dans sa poche hors du monde, et écrit en caractères que je n'ai jamais vus ailleurs. Warren ne m'a jamais dit ce qu'il y avait exactement dans ce livre. Quant à la nature de nos études, dois-je répéter que je ne suis pas bien sûr d'en avoir une totale compréhension ? Il me semble que c'est plutôt une bénédiction que je n'en ai pas été capable, car c'était de terribles recherches que je poursuivais plus par fascination réticente que par inclination réelle. Warren m'a toujours dominée, et parfois je le craignais. Je me souviens à quel point je frissonnais devant l'expression de son visage la nuit précédant l'épouvantable événement, quand il parlait continuellement de sa théorie, pourquoi certains cadavres ne se décomposent jamais mais restent fermes et gras dans leur tombe pendant 1000 ans. Mais je ne le crains plus maintenant. Car je soupçonne qu'il a connu des horreurs dépassant mon entendement. Maintenant, je crains pour lui. Une fois de plus, je déclare que je n'avais aucune idée précise de notre objectif cette nuit-là. Certes, Cela avait beaucoup à voir avec quelque chose dans le livre que Warren portait avec lui, ce livre ancien en caractère indéchiffrable qui lui était venu d'Inde le mois précédent, mais je jure que je ne sais pas ce que nous nous attendions à trouver. Votre témoin dit qu'il nous a vus à 11h30 sur Gainesville Pike, nous dirigeant vers le marais du Grand Cyprès. C'est probablement vrai, mais je n'en ai pas de souvenir bien net. L'image gravée dans mon âme ne représente qu'une scène. Et l'heure doit avoir été longtemps après minuit, car un croissant de lune descendante était haut dans les cieux vaporeux. L'endroit était un ancien cimetière. Si ancien que je tremblais devant les multiples signes d'années immémoriales. C'était dans un creux profond et humide, envahi par des plantes fétides, la mousse et de curieuses herbes rampantes, et empli d'une autre puanteur vague que mon imagination paresseuse associait, de manière absurde, à la pierre en décomposition. Nous étions entourés par des signes d'abandon et de décrépitude, et je ressentais un malaise trouble à l'idée que Warren et moi étions les premiers êtres vivants à envahir le silence mortel des siècles. Au-dessus des bords de la vallée, un croissant de lune blafard et déclinant perçait à travers les répugnantes vapeurs qui semblaient émaner d'insondables catacombes. Et au travers de ces faibles rayons vacillants, je pouvais distinguer un étalage repoussant de dalles anciennes, d'urnes, de cénotaphes et de façades de mausolées. Tous émiettés, couverts de mousse et souillés d'humidité, et partiellement cachés par l'exubérance brute d'une végétation malsaine. Ma première impression consciente de ma propre présence dans cette terrible nécropole concerne le fait de m'arrêter avec Warren devant une certaine sépulture, à moitié détruite, et de laisser tomber quelques charges qu'il semblait que nous portions. J'observais désormais que j'avais avec moi une lanterne électrique et deux pelles, tandis que mon compagnon s'était équipé d'une lanterne similaire et d'une paire de téléphones portables. Aucun mot ne fut échangé, car l'endroit et la tâche nous semblaient connus de tous deux. Et sans attendre, nous avons saisi nos pelles et commencé à dégager les plantes, les herbes et débarrasser la terre de cette antique chambre mortuaire souterraine. Après avoir découvert la surface entière, qui consistait en trois immenses dalles de granit, nous prîmes de la distance pour inspecter la scène charnelle, et Warren sembla faire des calculs mentaux. Puis, il retourna à la sépulture, et utilisant sa pelle comme un levier, chercha à soulever la dalle qui se trouvait le plus près d'une ruine de pierre, qui aurait pu être un monument en son temps. Il ne réussit pas et me demanda de lui porter assistance. Nos forces combinées détachèrent finalement la pierre que nous soulevâmes et basculâmes sur un côté. Le retrait de la dalle dévoila une ouverture noire par laquelle s'échappa une émanation d'effluves miasmatiques si nauséabondes que nous avons reculé d'horreur. Après un certain temps, cependant, nous avons approché la fosse à nouveau et trouvé les exhalations moins insupportables. Nos lanternes dévoilèrent le haut d'une volée de marches de pierre, trempées d'une sorte d'ichor détestable issu de l'intérieur même de la terre et bordées de murs humides incrustés de salpêtre. Et c'est à ce moment-là que, pour la première fois, ma mémoire enregistre un discours verbal. Warren, s'adressant enfin à moi de sa douce voix de ténor, une voix singulièrement imperturbable devant notre environnement fantastique. « Je suis désolé de devoir vous demander de rester à la surface, » dit-il. « Mais ce serait un crime de laisser quelqu'un avec vos nerfs fragiles y descendre. Vous ne pouvez pas imaginer, même à partir de ce que vous avez lu et de ce que je vous ai dit, les choses que je devrais voir et faire. C'est un travail diabolique, Carter. Et je doute qu'un homme sans une sensibilité blindée puisse le comprendre et en ressortir vivant et saint d'esprit. Je ne veux pas vous offenser, et Dieu sait que je serai assez content de vous avoir avec moi, mais la responsabilité est dans un certain sens mienne, et je ne pourrai pas traîner un paquet de nerfs comme vous vers une mort ou une folie probable. Je vous le dis, vous ne pouvez pas imaginer à quoi la chose ressemble vraiment. Mais je promets de vous tenir au courant de chaque mouvement par téléphone. Vous voyez que j'ai assez de fils ici pour atteindre le centre de la Terre et en revenir. Je peux encore entendre de mémoire ces mots froidement prononcés et je peux encore me souvenir de mes objections. Je me montrais désespérément soucieux d'accompagner mon ami dans ses profondeurs sépulcrales. Pourtant, il demeura obstinément inflexible. À un moment donné, il a menacé d'abandonner l'expédition si je persistais plus longtemps, une menace qui s'est avérée efficace puisque lui seul détenait la clé de la chose. Je me souviens encore de tout cela, bien que je ne sache plus quel genre de choses nous cherchions. Après avoir obtenu mon acquiescement réticent à son projet, Warren prit la bobine de fil et ajusta les appareils. À son signal, je pris l'un d'eux et m'assis sur une pierre tombale vieillie et décolorée, près de l'ouverture nouvellement découverte. Puis, il me serra la main, chargea la bobine de fil sur son épaule et disparut dans cet ossuaire indescriptible. Pendant quelques instants, je gardais encore en vue la lueur de sa lanterne et entendis le bruissement du fil pendant qu'il le déposait derrière lui, mais bientôt la lueur disparut brusquement, comme si un tournant avait été rencontré dans l'escalier de pierre, et le son s'éteignit presque aussi rapidement. J'étais seul, encore lié aux profondeurs inconnues par ces brins magiques, dont la surface isolée paraissait verte sous les rayons maladifs de ce croissant de lune déclinante. Dans le silence solitaire de cette immémoriale et déserte ville des morts, mon esprit conçut les fantasmes et les illusions les plus abominables. Les sanctuaires grotesques et les monolithes semblaient assumer une personnalité hideuse, une demi-conscience. Des ombres amorphes semblaient se cacher dans les recoins les plus sombres des creux encombrés par les mauvaises herbes et voltiger comme dans une procession cérémonielle blasphématoire au-delà des portails des tombes en ruine sur le flanc de la colline. Des ombres qui n'auraient pas pu être projetées par ce pâle croissant de lune. Je consultais en permanence ma montre à la lumière de ma lanterne électrique et tendit l'oreille avec une anxiété fiévreuse vers le récepteur du téléphone. Mais pendant plus d'un quart d'heure, je n'entendis rien. Puis, un léger cliquetis vint de l'instrument et j'appelai mon ami d'une voix tendue. Malgré toute mon inquiétude, je n'étais pourtant pas préparé aux mots qui sortirent de cette étrange crypte avec des accents bien plus alarmés et plus tremblants que ceux auxquels Harley Warren m'avait habitué auparavant. Lui, qui m'avait si calmement laissé un peu plus tôt, appelait maintenant d'en bas avec un murmure tremblotant, plus annonciateur de mauvais augure que le cri le plus strident.
« Dieu, si vous pouviez voir ce que j'ai sous les yeux en ce moment !»
Je ne pouvais pas répondre. Je ne pouvais qu'attendre, sans voix. Puis vinrent les tonalités frénétiques à nouveau.
Carter, c'est horrible, monstrueux, incroyable. Dieu, si vous pouviez voir ce que j'ai sous les yeux en ce moment.
Cette fois, ma voix ne me fit pas défaut et je déversais dans le transmetteur une avalanche de questions exaltées. Terrifié, je continuais à répéter. Warren, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Une fois de plus, revint la voix de mon ami, toujours enrouée de peur et maintenant apparemment teintée de désespoir.
Je ne peux pas vous le dire, Carter. C'est complètement au-delà de la pensée. Je n'ose pas vous le raconter, aucun homme ne pourrait savoir ça et continuer à vivre. Grand Dieu, Je n'ai jamais rêvé de cela.
Le silence à nouveau, à part le torrent, maintenant incohérent de mes questions tremblantes. Puis, la voix de Warren, sur le ton de la plus sauvage consternation.
Carter, pour l'amour de Dieu, remettez la dalle en place et cassez-vous si vous le pouvez encore. Vite, abandonnez tout et dirigez-vous vers l'extérieur, c'est votre seule chance. Faites ce que je dis et ne me demandez pas de vous expliquer.
J'entendais. Pourtant, je ne pouvais que répéter mes questions frénétiques seulement. Autour de moi se trouvaient les tombeaux et les ténèbres et les ombres. Au-dessous de moi, quantité de périls au-delà du périmètre de l'imagination humaine. Mais mon ami était plus en danger que moi et au travers de ma propre peur, je pris conscience d'un vague ressentiment à son égard, du fait qu'il puisse me juger capable de l'abandonner dans de telles circonstances. Il y eut encore quelques cliquetis et après une pause, un cri pitoyable de Warren.
« Cassez-vous ! Pour l'amour de Dieu, remettez la dalle en place et cassez-vous, Carter !»
Quelque chose dans l'argot juvénile de mon compagnon, manifestement sous le choc, débloqua mes facultés. Je pris et criai une résolution. « Warren, préparez-vous, je descends !» Mais à cette offre, le ton de mon auditeur se transforma en un cri de désespoir total.
« Ne faites pas ça! Vous ne pouvez pas comprendre! C'est trop tard! Et de ma faute, remettez la dalle et courez! Il n'y a rien que vous ou quelqu'un d'autre puissiez faire maintenant !»
Le ton changea encore, cette fois adoptant une qualité plus douce, comme une résignation désespérée. Pourtant, il restait tendu par son inquiétude pour moi.
« Vite, avant qu'il ne soit trop tard. »
J'ai essayé de ne pas y prêter attention. J'essayais de briser la paralysie qui me figeait et pour remplir ma résolution de foncer à son secours. Mais son murmure suivant me trouva encore inerte, liée par les chaînes d'une horreur absolue.
« Carter, maniez-vous. C'est inutile. Vous devez partir. Mieux vaut un seul que deux. La dalle !»
Une pause. Quelques cliquetis de plus. Puis, la voix défaillante de Warren.
Presque fini maintenant. Ne rendez pas ça plus dur. Couvrez ces maudites marches et sauvez votre vie. Vous perdez votre temps. Au revoir, Carter. Je ne vous reverrai plus.
Là, le chuchotement de Warren s'enfla en un cri. Un cri qui s'éleva graduellement jusqu'à un hurlement chargé d'une horreur éternelle.
Maudite ! Soit ces choses diaboliques ! Légion ! Mon Dieu ! Cassez-vous ! Cassez-vous ! Cassez-vous !
Après, il y eut un silence. Je ne sais pas pendant combien de temps je suis restée ahurie, une éternité, chuchotant, marmonnant, appelant, criant dans ce téléphone, encore et encore durant tout ce temps interminable. Je chuchotais et marmonnais, appelais, criais et hurlais. Warren, Warren, répondez-moi, êtes-vous là? Et là, vint l'horreur qui dépasse toutes les autres. L'incroyable, l'impensable, presque l'indescriptible chose. J'ai dit qu'un temps infini avait semblé s'écouler depuis que Warren avait hurlé juste après son dernier avertissement désespéré et que seuls mes propres cris rompaient le silence atroce. Mais au bout d'un moment, il y eut un cliquetis de plus dans le récepteur. Et je tendis l'oreille pour écouter. J'appelai encore une fois. « Warren, est-ce vous ?» Et en guise de réponse, j'entendis la chose qui apporta ce nuage au-dessus de mon esprit. Je n'essaie pas, monsieur, d'expliquer cette chose, cette voix, ni même de m'aventurer à la décrire en détail, puisque les premiers mots me firent perdre le sens des réalités et créèrent une amnésie qui s'étendit jusqu'à mon réveil à l'hôpital. Devrais-je dire que la voix était profonde, creuse, gélatineuse, lointaine, surnaturelle, inhumaine, désincarnée? Que devrais-je dire? C'était la fin de mon expérience, et c'est la fin de mon histoire. Je l'entendis et ne connus plus rien d'autre. Je l'entendis alors que j'étais assis, pétrifié, dans ce cimetière inconnu, au milieu de nulle part, parmi les pierres écroulées et les tombes effondrées. La végétation fétide et les vapeurs de miasmes, je l'entendis parfaitement depuis les plus secrètes profondeurs de cette épouvantable sépulture ouverte, alors que je regardais les ombres amorphes et nécrophages danser sous une lune en déclin maudite. Et voilà ce qu'elle disait.
Pauvre fou, marais de mort.
Chat d'Ultar. Il est dit qu'à Ultar, qui s'étend au-delà de la rivière Skye, aucun homme ne peut tuer un chat. Et, en vérité, je veux bien le croire, observant celui qui est étendu, là, ronronnant devant la cheminée. Car le chat est énigmatique et proche des choses étranges que l'humain ne peut voir. Il est l'âme de l'antique Égypte et porte le fardeau des contes des cités oubliées en Méroé et Ophir. Il est de la race des seigneurs de la jungle et détient les secrets de la très ancienne et inquiétante Afrique. Le sphinx est son cousin et il parle la même langue, mais il est plus ancien que le sphinx et se souvient là où celui-ci a oublié. À Ultar, avant même que les autorités n'interdisent le meurtre des chats, demeurait un vieux paysan et sa femme qui prenaient plaisir à piéger et tuer les chats de leurs voisins. Pour quelle raison ils le faisaient, je l'ignore. On raconte qu'ils haïssaient les voix des chats dans la nuit et que les chats puissent traverser furtivement leurs champs et leurs jardins au crépuscule les rendaient malades. Mais qu'importe les raisons, ce vieil homme et sa femme prenaient plaisir à piéger et tuer tous les chats qui approchaient de leur demeure. Et d'après les bruits qu'on entendait après la tombée du jour, les villageois commencèrent à imaginer que leur méthode d'abattage était très particulière. Mais les villageois n'en parlaient pas avec ce vieil homme et sa femme, à cause de l'habituelle expression sur leur visage parcheminé et parce que leur masure était si petite et si profondément cachée sous l'étendue des chênes à l'arrière d'un jardin abandonné. En vérité, beaucoup de propriétaires de chats détestaient ces vieillards, mais les craignaient plus encore. Et au lieu de les réprimander comme les violents assassins qu'ils étaient, ils prenaient plutôt soin à ce que leurs animaux de compagnie, ou greffiers chéris, restent éloignés de ce lointain taudis sous les arbres sombres. Et quand, inévitablement, un chat venait à manquer et que des sons affreux étaient entendus après la tombée du jour, celui à qui on avait enlevé son animal familier pleurait, impuissant, ou se consolait en remerciant le destin que ce n'était pas un de ses enfants qui avait disparu. Car les gens d'Ultar étaient simples et ignoraient tout de la première arrivée des chats. Un jour, une caravane d'étranges vagabonds du sud entra par les rues étroites et pavées de la ville d'Ultar. Sombres étaient ces voyageurs et bien différents de ces autres nomades qui passaient le village de Foilan. Ils disaient la bonne aventure sur la place du marché en échange de quelques pièces d'argent qu'ils échangeaient aux marchands contre des perles baroques. Nul ne savait de quelle contrée ils venaient, mais ils avaient été vus s'adonnant à d'étranges oraisons, et sur les flancs de leurs roulottes étaient peintes d'étranges figures, à corps humain et têtes de chat, de faucon, de bélier et de lion. Et le chef de cette caravane portait une coiffe ornée de deux cornes, entre lesquelles était disposé un curieux disque. Il y avait dans ce convoi singulier un petit garçon qui n'avait ni père ni mère, juste un petit chat noir à chérir. La peste ne l'avait guère épargné, pourtant elle lui avait laissé cette petite chose touffue pour atténuer sa peine. On peut trouver un grand apaisement dans les espiègleries d'un chaton noir. Alors, le garçon que ceux à la peau sombre appelaient Ménès souriait plus souvent qu'il ne pleurait lorsqu'il jouait avec son adorable chat, assis sur les marches d'une de ses roulottes aux peintures étranges. Au troisième matin du séjour des voyageurs, à Ultar, Ménès ne retrouvait pas son chat. Et alors qu'il sanglotait sur la place du marché, certains villageois lui racontèrent les rumeurs autour du vieil homme et de sa femme et des bruits entendus lors de la nuit. Ainsi, lorsqu'il entendit ces choses, ses sanglots furent remplacés par la méditation, puis par des prières. Il allongea ses bras vers le soleil et pria dans une langue qu'aucun villageois ne pouvait comprendre. Et même, les villageois n'essayèrent pas de comprendre, tant leur attention était portée sur le ciel et les formes fantasques que les nuages épousaient. C'était très particulier. Mais alors que le jeune homme relâchait sa requête, il semblait se former au-dessus de ténébreuses et nébuleuses silhouettes exotiques, de créatures hybrides couronnées de disques ornés de cornes. La nature regorge de telles illusions qui impressionnent les imaginatifs. Cette nuit-là, les vagabonds quittèrent Ultar et on ne les y revit jamais. Les villageois s'inquiétèrent alors en découvrant que, dans tout le village, on ne trouvait plus un chat. De chaque foyer, le chat de la famille s'était évanoui. Des chats grands comme petits, noirs, gris, rayés, jaunes et blancs. le vieux Cranon, le bourgmestre, jura que les gens basanés avaient enlevé les chats afin de se venger de la mort du chat de Ménès. Et il maudit la caravane ainsi que le jeune garçon. Mais Nit, le frêle notaire, déclara que le vieux paysan et sa femme étaient bien plus suspects, car leur haine des chats était notoire et toujours plus virulente. Toutefois, personne n'alla se plaindre du sinistre couple. Même lorsque le jeune Attal, le fils de l'aubergiste, jura qu'il avait vu au crépuscule les chats d'Ultar sur ce champ enclavé sous les arbres, faisant la ronde doucement et solennellement autour de la masure, en rang par deux, comme s'ils célébraient un rite animal inconnu. Les villageois ne savaient pas jusqu'à quel point ils pouvaient croire un si jeune garçon, et comme ils craignaient que le couple malfaisant n'ait jeté au chat un sort funeste, ils préférèrent ne pas blâmer le vieux paysan avant qu'il ne puisse le rencontrer en dehors de son champ sombre et repoussant. Alors, Ultar s'endormit dans une colère vaine. Et quand les gens se réveillèrent à l'aube, surprise. Tous les chats étaient de retour dans leur foyer, grands comme petits, noirs, gris, rayés, jaunes et blancs, aucun ne manquait. Les chats semblaient gras et doux, et ils ronronnaient de contentement. Les citoyens parlèrent les uns avec les autres de cette affaire et ne s'émerveillèrent pas qu'un peu. Le vieux Cranon insista encore sur le fait que c'était le peuple basané qui les avait pris, puisqu'aucun chat ne revenait vivant de la demeure du vieil homme et de sa femme. Mais ils étaient tous d'accord sur une chose. Le refus des chats de manger leur moût et de boire leur soucoupe de lait était extrêmement curieux. Et pendant deux jours, les chats paresseux d'Ultar ne touchèrent aucune nourriture. Ils se prélassaient juste à la chaleur du feu ou du soleil. Il fallut attendre une semaine complète avant que les villageois ne remarquent qu'aucune lumière n'émanait des fenêtres de la maison, sous les arbres au crépuscule. Ensuite, le frêle Nit fit remarquer que personne n'avait vu le vieil homme et sa femme depuis la nuit où les chats étaient partis. La semaine suivante, le bourgmestre décida de surmonter ses peurs. Il considérait qu'enquêter sur cet étrange silence persistant était un devoir afférent à sa charge. Mais, par précaution, il se fit accompagner de Changle Forgeron et de Tulle, le tailleur de pierre, en qualité de témoin. Et après avoir fracassé la porte branlante, ils ne trouvèrent que ceci. Deux squelettes humains, proprement récurés sur le sol de terre, et un nombre impressionnant de scarabées rampant dans les coins sombres. Cela fut l'occasion de nombreuses discussions de la part des magistrats d'Ultar. Zat, le médecin légiste, se disputait à longueur de journée avec Nit, le frêle notaire, et Cranon, Shang et Tulle étaient assaillis de questions. Même le jeune Attal, le fils de l'aubergiste, fut interrogé attentivement et on lui donna une friandise en guise de récompense. Ils discutèrent du vieux paysan et de sa femme, de la caravane des voyageurs mystérieux, du petit Ménès et de son chat noir, de l'incantation de Ménès et du ciel pendant celle-ci, de ce que firent les chats la nuit où la caravane partit, et de ce qui fut trouvé dans la chaumière, sous les arbres sombres, dans l'abject jardin. Et finalement, les autorités passèrent cette loi remarquable qui est racontée par les marchands à Ateg et mentionnée par les voyageurs à Nir, à savoir qu'à Ultar, aucun homme ne peut tuer un chat.
Tigers, oh, we couldn't get closer than this. shake and wild and bright. Till we bite and scratch and scream all night. Let's go and throw all the songs we know into the sea. Yes, thank you.